Bonjour, ici François Nardou de Montcuq depuis le studio du Boulevard dans le cadre de l'émission Un brin d'histoire en ce dimanche 31 octobre 2021. L'année a de l'importance. Je vais vous parler aujourd'hui d'une célébration devenue à la mode depuis peu de temps et qui se situe dans le cadre du passage de la belle saison chaude de l'été vers l'hiver, fin d'été, début d'hiver. Cette célébration, ce n'est pas la Toussaint chrétienne qui ne doit sa fixation au 1er novembre qu'à la volonté d'un pape du 6e, 7e siècle, mais c'est ce qui la précède dans le calendrier festif de l'Occident, de l'Europe moderne, à savoir la très récente et introduite depuis les États-Unis fête de Halloween. Alors, ce fameux Halloween qui suscite l'ire des catholiques les plus convaincus, et je les comprends, est en fait non pas une célébration païenne, contrairement à ce qu'on imagine, mais c'est d'abord la célébration par les gaéliques d'Irlande, les Irlandais catholiques, de ce qui était pour eux, dans la réminiscence qu'ils pouvaient en avoir du calendrier druidique, de ce qui était pour eux le début de l'année. La forme est anglicisée. Hallow veut dire saint, c'est l'équivalent de l'anglais holy, heilig en allemand. Hallow, c'est tout ce qui est saint, sacré et redoutable. Il y a un carambolage avec le celtique général, pour nous le gaulois, le gaélique pour les Irlandais, qui est de forme Olla Windoy. Littéralement, ça veut dire tous les blancs. Olla Windoy est devenu Halloween. En gaulois, je vous le dis au passage, Allos, ça veut dire autre, comme en grec. Ollas, Olla ou Ollos, c'est tout, tous. Olla Windoy, ce sont tous les blancs. Les blancs, qui sont-ils? Ce sont les trépassés, ce sont les défunts, ce sont les morts. Pour les Gaulois de l'Antiquité, nous le savons par Jules César, les morts séjournaient au nord du monde. Le monde des morts était un monde souterrain au nord du monde, un monde pâle, sombre, sans lumière, un monde éteint, sous la domination d'un dieu gaulois que l'on appelait Dis Pater, c'est-à-dire littéralement, d'après le latin et le grec, le mauvais père. C'est le dieu qui préside donc au monde des morts, et ce monde des morts, il est situé au nord du monde, là où le soleil ne pénètre jamais. Alors, bon, voilà ce qui s'est passé. Le calendrier gaulois, celtique, général, druidique, que nous connaissons par des découvertes tout à fait dues au hasard à la fin du XIXe siècle, lorsque dans la région de Coligny, en Bourgogne, et de Villard-d'Eria, dans la même région de la Saône, des agriculteurs labourant des vignes ont découvert des tables de bronze et de marbre gravées de signes qu'ils ne pouvaient pas lire, qui ont été évidemment inventoriées, sauvées, décryptées par des archéologues, des spécialistes du monde antique. Ces tables de bronze et de marbre étaient tout ce qui restait d'un ancien temple, d'anciens sanctuaires gallo-romains, détruits vraisemblablement à la fin du second siècle de notre ère, vers 180, ou abandonnés. Le sanctuaire a pu être détruit au 4e, 5e siècle dans le cadre de l'Empire romain chrétien, mais les tables avaient été gravées au 2e siècle. Et ces tables de bronze restituaient un calendrier liturgique gaulois de type druidique, tel qu'encore suivi par les populations rurales de cette région du bassin de la Saône au 2e siècle de notre ère, l'apogée de l'Empire romain, l'âge d'or, celui de la dynastie des Antonins. Et les études qui ont été faites sur le sujet, le meilleur spécialiste actuel connu, c'est Venceslas Kruta, d'origine tchèque, qui était professeur à l'université de Tours et qui a fini sa carrière comme professeur au Collège de France. Venceslas Kruta a beaucoup travaillé sur le sujet, il n'est pas le seul, évidemment. Et on a pu restituer ce qu'était la façon de compter le temps des Celtes, le compute du temps. Et il s'avère qu'il y a plusieurs hypothèses. Et ça s'appuie sur ce que disent Jules César et Pline le Jeune, qui a été gouverneur d'une province d'Asie mineure peuplée de Celtes, la Galatie, ou la Galatia, si vous voulez, le pays des Galates, des épîtres de Saint-Paul, autour d'Ankara, la capitale fédérale des Galates de l'Asie mineure, c'était Ancyra, l'actuelle Ankara. Semble-t-il, les Gaulois, les Celtes en général, faisaient commencer les mois de l'année au sixième soir de la fin du premier quartier de chaque lunaison. Et donc, fin du premier quartier de la lunaison suivante. C'est assez curieux. D'autres pensent que c'était pour la nouvelle lune que commençait le mois. Donc le centre du mois se situait soit au passage du troisième au quatrième quartier, soit au moment de la pleine lune. Moi je pense plutôt que le mois commençait au sixième soir et durait jusqu'à la fin du premier quartier de la lunaison suivante. Parce que voilà, les Gaulois divisaient le mois en deux moitiés. Une moitié claire, qui était la première partie du mois, et une moitié sombre, la seconde partie. Ils divisaient le mois entre deux parties, celle où la lune éclairait assez pour dessiner par contraste des ombres sur le sol, on appelait ça la moitié claire. Et la seconde partie, où la lune n'était pas assez forte, on appelait ça la moitié sombre. En gaulois, c'était la moitié non claire. De même pour l'année. L'année commençait avec la moitié sombre de l'année, donc l'inverse, et laissait la place ensuite à la moitié claire. Alors, le jour commençait après le coucher du soleil, avec la moitié sombre de la journée, et s'achevait au coucher du soleil de la journée suivante, avec la fin de la moitié claire de la journée. Donc, voyez-vous, c'était le monde pour les Gaulois était divisé entre deux parties opposées et complémentaires, le clair et le sombre. Un peu le yin et le yang de l'Asie centrale et du monde chinois. Alors, les Gaulois, les Celtes en général, les druides, commençaient l'année avec, semble-t-il, alors Venceslas Kruta a fait beaucoup de travaux de recherche là-dessus, il a pu nous restituer ce qu'était le compute du temps chez les Celtes depuis 1500 avant notre ère jusqu'à nos jours. Alors, semble-t-il, on commençait l'année avec la fin du premier quartier, sixième soir, de la seconde lunaison complète après la lunaison dans laquelle se trouvait l'équinoxe d'automne, 20-21 septembre. Pour d'autres, ce serait peut-être avec la première lunaison complète. De sorte que cette lunaison, commençant à des dates qui, par rapport à notre calendrier romain, solaire, chrétien, à date fixe, ces dates donc de ce calendrier lunaire décalé, lunisolaire, changées, comme dans tous les calendriers lunaires, d'une année à l'autre. Par exemple, cette année, le début du premier mois de l'année gauloise, de l'année celtique, druidique, qui est aussi le premier mois de l'hiver, de la saison sombre, ce début du premier mois va tomber exactement le jour du 11 novembre, Saint-Martin d'hiver. L'année dernière, autant qu'ils m'en souviennent, c'était le soir du 27 octobre. Les spécialistes, qui travaillent notamment dans le cadre de la Société de mythologie française, dont j'ai été membre, pensent qu'il y avait deux dates clés extrêmes, la plus précoce et la plus tardive. Il semblerait que le premier mois de la nouvelle année celtique pouvait correspondre à notre 18 octobre, Saint-Luc. Ce premier mois pouvait commencer jusque par là, vers le 25 novembre, Sainte-Catherine. Donc voyez-vous, un passage de l'été à l'hiver qui pouvait varier considérablement d'une année à l'autre. On sait ça par... Il y a Jules César, il n'y a pas que lui, il y a Pline, il y a d'autres auteurs. Il faut lire pour ça Anne-Françoise Leroux et Jean-Christian Guyonvach, Les fêtes celtiques. Ils sont aperçus que solstice et équinoxe étaient des points repères, mais qui n'étaient pas des dates de fêtes liturgiques druidiques. Ce sont des dates intermédiaires. Alors, l'année était divisée entre quatre saisons, une moitié claire, une moitié sombre, et quatre saisons, deux saisons par moitié. On aurait donc changé d'année par là, donc vers le sixième soir de la seconde lunaison, après l'équinoxe d'automne. Bien. Et ce changement d'année qui porte le nom, alors vous prononcez comme vous pouvez, il faut prononcer normalement Shomin, en gaélique d'Irlande actuelle, ça s'écrit Shamain, S-E-H-A-M-E-A, accent grave, I-N. C'est par le calendrier de Coligny, Villarderia et autres, avoir été le mois de Samon, au génitif Samonios, celui de Samon, celui du rassemblement, plutôt que celui de l'été. Parce que Samon, ça peut vouloir dire aussi bien l'été que le rassemblement de tous. Alors, pour ce sixième soir de la seconde lunaison, premier soir de la nouvelle année, commençait donc l'année celtique. Et c'était une des dates possibles de rencontre entre les vivants et les morts, de retour des morts parmi les vivants. Mais la fête principale de ce mois de Samon, Samonios, se trouvait au milieu du mois, donc au passage du troisième au quatrième quartier. Alors, cette année, par exemple, si le changement d'année Shomin, Shamain, si vous voulez, se situe pour le soir du 11 novembre, les trois nuits qui constituent le milieu du premier mois tombent vers le 25 novembre, 14 jours après, donc 24, 25, 26 novembre, vers la Sainte-Catherine. Alors là, on entre cette année vraiment dans le cadre qu'apprécient beaucoup les membres de la Société de mythologie française, parce que ça se cale bien sur le calendrier liturgique, chrétien, catholique, romain, de l'Église romaine. Saint-Martin, 11 novembre, Sainte-Catherine, 25 novembre. D'autres années, bon, il y a d'autres dates clés, la Saint-Hubert, le 3 novembre, la Saint-Luc, le 18 octobre, etc. Alors, vous avez donc le sixième soir de la seconde lunaison, changement d'année, fête de Shamain, de Shomin, et les trois nuits du milieu du mois. Et ce serait plutôt dans ces trois nuits du milieu du mois que les Gaulois, ça on en est sûr et certain, c'est les auteurs grecs et latins qui le disent, alors les tribus gauloises, pour ces trois nuits, les trois nuits de Shamain, ou de Shamon, ou de les Trinurti, Samonios, les Gaulois, dans le cadre des tribus gauloises, imaginez les Caturci du futur Quercy, du Pagus Caturcinus, les Caturci, druides, nobles, paysans, autour du roi, si les Caturci avaient encore un roi, parce que la royauté, les royautés dans le monde, dans la Gaule celtique disparaissent à la fin du second siècle avant notre ère, autour du roi et des druides, se rassemblaient en un lieu central, qui était le lieu le plus sacré du territoire de chaque tribu. Alors pour les Cadours, que ce devait peut-être Mursens, c'était peut-être un autre endroit. Il pouvait y avoir des clans qui constituaient la tribu. La tribu, c'est le Toutos, qui était subdivisé en clans, les Korioi. Peut-être que chaque Korios, au singulier, se réunissait dans son propre lieu sacré, autour de son petit roi, son Regulus. Le Korios, en latin, ça va donner le nom de la Regio, c'est-à-dire la région, ce qui est sous l'autorité d'un petit roi. Et le Quercy, par exemple, était divisé encore au 7e siècle, à l'époque de Saint-Didier, en quatre régiones, quatre régions, qui se conjoignaient en un point central, Cahors à l'époque romaine, peut-être auparavant Mursens. Alors là, donc, les Gaulois se réunissaient, les paysans, les artisans, les commerçants, les nobles, les druides autour du roi, et ils célébraient de grands banquets gigantesques pendant les trois nuits du milieu du mois, grands banquets où on laissait la place aux morts. Les morts étaient censés revenir banqueter avec les vivants. C'était aussi la date où les nobles, qui étaient des chasseurs, mais les nobles de Gaulois s'étaient réservés le droit de chasse, assistaient à ces banquets, couronnés d'or, et leurs chiens, au pelage rouge et blanc, c'était les meilleurs chiens de chasse pour les Gaulois, l'association du rouge et du blanc, leurs chiens participaient au banquet, ils mangeaient avec les hommes, eux aussi couronnés d'or. Et cette date était celle pour laquelle les morts revenaient parmi les vivants. Alors, c'est devenu cette fête du milieu des trois jours du milieu du mois, qui est peut-être l'ancêtre de Halloween, puisque pour Halloween, dans le monde gaélique d'Irlande et d'Amérique du Nord, c'est la fête où les morts reviennent quêter des dons et des cadeaux parmi les vivants. C'est la fameuse tradition aux États-Unis. Les enfants déguisés en sorcières et autres figures effrayantes vont quêter de porte en porte en disant aux gens « Treat or trex ». Treat, vous composez avec nous, vous faites un accord avec nous, vous nous donnez des bonbons, des gâteaux, etc., des fruits. Ou alors, on vous ensorcelle, on vous jette un sort, c'est ça. Au fond, les enfants représentent les morts revenant parmi les vivants. Ça rejoint la mythologie du vieux Quercy qui veut que toute naissance d'un enfant dans un jeune couple provoque le décès d'un ancêtre, d'un des grands-parents. Parce qu'au fond, c'est le renversement de la logique. Au fond, aux origines, on pensait que les petits-enfants étaient la réincarnation des grands-parents. Le petit-fils était la réincarnation du grand-père paternel, dont il reprenait le prénom ou le nom. Alors, ces rites des trois jours du milieu de Chamain, qui vont donner naissance probablement à Halloween, ces rites, ils sont aux origines de la légende, du mythe de la chasse du roi Arthur. On considère qu'à certaines dates de l'année, notamment dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, la nuit de Toussaint, mais également pendant les nuits des 12 jours entre Noël et le jour des rois, pour la nuit du 11 novembre, la Saint-Martin, la Saint-Hubert le 3 novembre, pour la Saint-Hilaire 14 janvier, pour le solstice d'été, Saint-Jean-Baptiste, le patron de Saint-Jean-le-Froid, Saint-Hilaire, patron de Montcuq, les morts traversent le ciel en meute, en troupe hurlante, guidés par un personnage qui a pris le nom et la figure du roi Arthur des légendes médiévales, roi Arthur qui conduit une meute de chasseurs vêtus de peaux d'ours et de loups, qui emmène avec eux les morts de la paroisse dans l'au-delà, et ces chasseurs sont accompagnés de troupes de chiens au pelage rouge et blanc couronnés d'or. Et vous retrouvez ces mythes médiévaux que a bien travaillé Philippe Walter et Philippe Le Couteux, des professeurs d'université publiés dans des maisons d'édition savantes. Ils ont bien travaillé ces mythes et vous les retrouvez figurés dans la pierre, sculptés dans la pierre, dans les sculptures de l'abside de l'église Saint-Hilaire de Montcuq. L'abside, c'est ce qui est derrière le cœur. Le cœur est un rectangle à Montcuq, à Saint-Hilaire, et derrière, vous avez le mur pentagonal à cinq côtés, c'est l'abside. Et là, vous les retrouvez, ces mythes, figurés dans la pierre. Bon, alors, il faut savoir que l'église avait d'abord primitivement fixé la date de la fête de tous les saints et de tous les martyrs, le Dies Martyrorum, la fête des martyrs, qui va donner l'occitan Martru, qui est un des noms de Toussaint. Toussaint en occitan, c'est Toussans, tous les saints. Festa Dies Omnium Sanctorum, en bon latin. Mais en occitan, on a plutôt retenu l'expression Festa et Dies, ou Diesque, Martyrorum, des martyrs, donc tout Martru. Alors l'Église avait d'abord primitivement fixé la fête des saints et des martyrs, de tous les saints et de tous les martyrs. Je crois que c'est Saint Jérôme, je crois bien, ou Origène, ou Tertullien, qui disait qu'il y avait au moins 5000 martyrs par jour de l'année. Donc il était difficile de tous les fêter. L'Église avait d'abord fixé cette date le 13 mai, qui est l'ancienne date des Ides, la pleine lune de mai. Et à l'époque constantinienne. Puis, au 6e, 7e siècle, les papes ont décidé de déplacer cette fête au premier jour du mois de novembre, le 1er novembre. Ce qui fait que cette fête a attiré à elle, dans l'Occident qui avait été celtique, gallo-romain, mais dans l'Occident qui n'avait jamais été romain comme l'Irlande qui a été christianisée très tôt, parce que Saint Patrick, vers 450, succède à un Saint Palladius, un Gaulois de Gaulle, ou peut-être de Grande-Bretagne. L'Empire romain avait inclus dans ses provinces toute l'Angleterre actuelle, y compris le sud de l'Écosse. L'Irlande a été christianisée à l'époque constantinienne, au 4e, 5e siècle, à partir de l'Angleterre. Et donc, si vous voulez, la fixation par l'Église au 6e, 7e, vers, soit par Grégoire le Grand, qui est à l'origine de la recristianisation de l'Angleterre après l'établissement des Anglo-Saxons, soit par un de ses successeurs, je crois que c'est Grégoire IV au 7e siècle, l'Église a fixé cette fête de tous les saints au 1er novembre. Cette fête a attiré à elle les célébrations celtiques, druidiques, dites païennes, pré-chrétiennes, donc celle des trois jours du milieu du mois, les trois nuits de Samhain, mais également ça a amené à fixer au premier jour de Samhain, confondu, mais c'est arbitraire, avec le 1er novembre, ça a déplacé au 1er novembre, à la nuit du 31 octobre au 1er novembre, les célébrations, les mythes, les rites, les fêtes, qui étaient celles des Celtes en général, pendant les trois nuits du milieu du mois. Ce qui fait que ce qui, cette année, aurait dû être célébré vers le 25 novembre en calendrier druidique, devrait l'être pour le 11 novembre, la Saint-Martin. Il se trouve que, par l'adoption par les chrétiens d'Irlande et par tout le monde occidental du calendrier romain solaire à date fixe, qui est le nôtre actuellement, ça a contribué à fixer, figer dans le temps, les fêtes de Samhain, qui sont devenues celles de Halloween, à la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Mais c'est tout à fait artificiel. Un bon néo-druide, néo-païen, néo-celte se devrait de fêter Halloween cette année, le soir du 11 novembre. Et plus exactement, le soir du 25 novembre. Alors évidemment, ça ne fait pas l'affaire des enfants qui ne sont pas en vacances à ce moment-là. Parce que bon, quoi que si, pour le 11 novembre, la veille, ils sont en fête. Parce que comment venir frapper aux portes pour demander des bonbons et des gâteaux si on vous répond ce que doit faire tout historien digne de ce nom et tout néo-druide digne de ce nom? Ah, les enfants, je n'ai rien à vous donner, vous ne venez pas le bonjour. Car il faut savoir que ces rites de distribution de bonbons et de gâteaux, à travers les enfants, ces bonbons et ces gâteaux, vous ne les donnez pas aux enfants, vous les donnez aux morts. Et les morts, s'ils sont satisfaits de vos cadeaux, vont assurer la prospérité de l'année suivante, l'abondance des récoltes. Donc, si vous faites une erreur dans le formalisme rituel liturgique, vous mettez en cause l'abondance des récoltes de l'année suivante. Les Romains de l'Antiquité, qui étaient très formalistes dans leur religion, la religion romaine, c'est une religion de rite très formaliste, mais c'est vrai pour également, tenez par exemple, dans l'Inde actuelle encore, dans les rites hindous, hérités de l'Inde védique, en sanskrit, le moindre défaut, la moindre erreur dans l'accomplissement d'un rite annule celui-ci, lui enlève toute valeur, toute efficacité. Et dans la pensée ancienne, que ce soit surtout la pensée romaine, mais c'est vrai aussi la pensée grecque, c'est bien pareil. Le rite doit être respecté dans ses moindres détails. C'est vrai en Égypte, c'est vrai même dans les pratiques judaïques de l'Antiquité. On doit respecter le rite à la moindre virgule près. Tout changement d'un iota, comme dit le Christ à propos de l'interprétation de la Torah, enlève au rite accompli toute efficacité. Donc, il est évident que dans la pensée néo-païenne qui est à la mode dans les milieux qui célèbrent Halloween le soir du 31 octobre pour faire pièce et concurrencer les célébrations chrétiennes catholiques de Toussaint et du jour des morts, le 2 novembre, ces gens-là se trompent complètement. Parce qu'en célébrant Halloween le soir du 31 octobre, cette année par exemple, ça ne veut plus rien dire du tout. Il n'y a aucune efficacité. Donc un bon néo-païen se devrait de respecter le calendrier druidique. Ce qui fait beaucoup de difficultés, parce qu'il faut d'une année à l'autre tout recalculer. Alors bon, il faut se référer pour ça aux tables calendaires dressées par Venceslas Cruta, qui s'est aperçu de beaucoup de choses, notamment grâce aux découvertes archéologiques de ces dernières années. On a découvert en Europe centrale et orientale, qui est le berceau des Celtes, parce qu'il ne faut pas oublier que les Gaulois, ils ne sont pas nés en Gaule. Hein. Les Gaulois, leur vrai berceau, c'est ce qui est de nos jours l'Autriche, la Bavière, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, le bassin du Danube. Ils sont nés là. Et ce qui les a chassés vers l'ouest, c'est des changements climatiques en Europe septentrionale, dont je vais vous parler dans l'émission prochaine, et qui les a amenés à se déplacer vers l'ouest et le sud à la recherche du soleil. Mais le vrai berceau des Gaulois, ben c'est Vienne, le pays des Habsbourg, les adversaires des Capétiens, des Bourbons. Donc l'histoire est tout à fait à revoir. Il vaut mieux ne pas se frotter aux historiens quand on est idéologue. Là-dessus, je vais vous laisser. La prochaine émission parlera de toute autre chose. Alors je ne sais pas si j'ai été très clair. Bon, pour moi, c'est un sujet rabattu. Mais enfin, si vous voulez célébrer Halloween dans les règles de l'art, il faudra vous rendre dans le cœur de l'église Saint-Hilaire de Montcuq. Et je ne sais pas si le curé actuel de Montcuq, qui est le grand patron, il a les pouvoirs de commissaire de police dans le cadre des exercices liturgiques, je ne sais pas s'il appréciera beaucoup de voir arriver des néo-druides vêtus de blanc, couronnés de verveine ou de feuilles de chêne, le regard halluciné. Ce serait amusant. Là-dessus, je vous laisse. À la prochaine fois. Au revoir.
Yesterday, but it really is a world. Time to dance.